Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense parfois les shows de la WWE et consorts. Je suis de retour, j'ai un nouveau micro, je suis Raphaël et je suis là pour le SmackDown du 27 novembre. Je suis accompagné de l'inimitable, l'indétrônable, celui qui vient de retrouver son ami l'Undertaker à la maison de retraite. Voici Papy, comment ça va Papy?
Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël, ben, ça va, mais quelle belle voix tu as, je suis épaté là, ça me fait frissonner.
Ah, ça fait plaisir, ton tour viendra, je suis sûr, toi aussi un jour on achètera pour Noël une boîte de... un petit micro, bon, on t'expliquera, l'infirmière de la maison de retraite te branchera ça sur Windows, mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne la technologie, c'est beau.
Oui, c'est... Alors, si on peut le brancher sur le Minitel, ce sera parfait, hein, parce que... ou sur le fax, est-ce que ça marche sur le fax?
Ça se faxe pas, mais par contre, on peut te livrer une petite disquette
pour l'enregistrer. Ça fait plaisir.
Ouais, ça fait toujours plaisir. Allez, fini de parler du passé, hein, Papy, la WWE, c'est toujours vers l'avant, c'est toujours vers l'avenir, tu le sais, c'est ce qui te maintient si jeune et si en forme.
C'est ça, c'est tomorrow and je sais plus quoi là. Bref, vers le futur et au-delà.
Then, now et forever, yes.
Forever.
Eh ben, forever, justement, c'est un peu ce qui énerve Jey Uso quand il arrive au début de ce SmackDown, puisqu'il nous dit qu'en gros, on a un peu trop parlé du farewell de l'Undertaker là, depuis Survivor Series, alors qu'on aurait dû parler de Roman Reigns, de la victoire de son cousin qui a quand même battu Drew McIntyre, alors que Drew, c'est celui qui a battu Randy Orton, qui a battu Brock Lesnar, tout ça, et ben non, le vrai champion number one, c'est l'Universal Champion, c'est son cousin, c'est le best of the best, et alors on sent que Jey Uso, il aurait voulu introduire son cousin, sauf que Roman Reigns, ça le fait chier d'attendre en coulisses, donc il envoie sa musique avant que Jey Uso ait fini de parler. Il arrive, Roman Reigns fait passer le clip des Survivor Series, donc où on voit la défaite de la team SmackDown masculine, puis la victoire de Roman Reigns, bien aidée quand même par Jey Uso. Et du coup, Roman, alors il est avec Paul Heyman, qui lui donne le micro d'ailleurs, qui prend le micro des mains de Jey Uso, et il dit bah voilà, après ton match, je t'avais demandé de te barrer, et tu m'as pas écouté, est-ce que je t'ai demandé de l'aide? Non, je t'ai pas demandé d'aide. Toi, t'as eu ta team, elle a perdu. Pourquoi elle a perdu d'après toi? Ben, parce que... Il nous sort le même refrain, parce qu'ils t'ont pas écouté. Pourquoi ils t'ont pas écouté? Parce qu'ils t'ont pas respecté. Et s'ils te respectent toi, ils me respectent pas à moi, ils nous respectent pas à nous. Et alors il dit un truc, voilà, comme quoi si on le respecte pas, c'est-à-dire qu'on les regarde un peu comme des losers là qui attendent les cadeaux de Thanksgiving. Roman Reigns, il a un gros problème avec le regard de ses enfants. Hein. Il le dit très souvent. Il veut pas que ses enfants le regardent mal. Il veut que ses enfants le voient. Le voit comme un héros, alors il dit à Jey Uso, tu veux pas que tes enfants te voient aussi comme un héros? En tout cas, moi, tu me fais sentir en gros comme un loser. J'ai l'impression de me sentir comme un loser à cause de ce qui s'est passé. Et ça me plaît pas du tout. Donc Reigns, il se casse et il laisse Jey Uso dans un piteux état, tout triste, qui s'en va les épaules voûtées. Alors il croise Otis qui lui arrive très excité. Otis s'apprête à affronter King Corbin, c'est l'affiche qui est prévue. Mais une affiche qui n'aura jamais lieu, puisque Jey Uso revient à toute vitesse avec une chaise, passe à tabac le pauvre Otis qui n'avait rien demandé et qui n'a rien compris, et qui est obligé ensuite de partir à l'infirmerie, aidé par son nouveau copain Chad Gable. Donc bah, déjà, notre opener catchesque, on en est privé, quelle déception, Otis versus Corbin, on attendait ça depuis des mois. Et puis, ça reste tendu là entre les cousins samoans, alors qu'est-ce que t'as pensé de cette... comment on peut appeler ça, de cette première réaction du show bleu après Survivor Series? Ça va mal quand même là entre les cousins.
Ah oui, ça va mal. Bah c'est le pauvre Jey là, il creuse chaque jour un peu plus. Là, il a eu un push de quelques semaines juste avant ses matchs contre Roman Reigns, et depuis c'est la décadence quoi. Donc il se fait battre en weekly, son équipe se fait latter au Survivor Series, il se fait vraiment prendre comme une merde par Roman Reigns qui le vire du stade. Ensuite, il revient l'aider, mais au lieu de le remercier, il l'engueule derrière en disant « Mais t'es rancune merde, je t'ai pas demandé ça et tout. » Donc, il passe son temps à se faire, quoi qu'il fasse, à se faire engueuler, le pauvre Jey Uso. Et bah, en même temps, c'est ça, c'est le larbin en fait. Hein. Mais de toute façon, il a que des larbins autour de lui, Roman Reigns. Il a Paul Heyman qui parle pas, il y a Jey Uso qui fait que des conneries. Et donc c'est bien, c'est que du coup tu vois que ça lui pèse un peu et qu'il attaque Otis, bah justement, sort de dire cousin, je veux me refaire la cerise et tout, je lui péter sa gueule à ce gros con. Et merde, effectivement, on rate le Corbin versus Otis. Bon bah, partie remise ou pas?
Partie remise peut-être. Alors il y a quand même quelque chose derrière tout ça, hein, c'est que Otis faisait partie de l'équipe de SmackDown et il fait partie de ceux qui n'ont pas écouté Jey Uso, donc il y a sûrement une vengeance par rapport à ce match de dimanche. Ouais, on sent que Jey Uso fait tout pour lire un petit peu d'admiration dans les yeux de Roman Reigns, mais bon, pour le moment là, ça n'a pas bien marché en tout cas au Survivor Series, et là on va voir s'il va réussir à se rattraper ce soir. Il a très envie en tout cas. Alors donc, qu'est-ce qui se passe dans ce match? Montez Ford au début de match arrive assez vite à se mettre en position pour faire son splash de From the Heavens, mais il le rate, donc ensuite il va prendre assez cher pendant plusieurs minutes. Puis il y a un hot tag qui réussit à se passer. Dawkins, il envoie un spinning neck breaker sur Dolph Ziggler, sa nouvelle prise favorite, puis un spinebuster sur Robert Roode. Ford peut placer son gros splash, sauf que Dolph Ziggler arrive pour briser le pin. Et pendant qu'il y a un petit peu là d'intervention de part et d'autre, Robert Roode arrive à porter un roll-up à Montez Ford. Glorious victoire. Et voilà, après avoir battu les 10-time champions du monde que sont les New Day, eh bien les Street Profits tombent face aux terrifiants Ziggler et Roode pour un match pour le titre sûrement dans les prochaines semaines. Une feud qui démarre. Je sais que papy, tu attendais la reprise des feuds intra-SmackDown, hein, puisque là, en retour sur Avo Series, c'était un peu feud interbrand. Est-ce que tu es content de celle-ci qui s'annonce?
Oui, alors c'était au-delà de feud interbrand, c'est qu'en plus, il se passait pas grand-chose côté SmackDown, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils foutaient, en fait, SmackDown avant les Survivor Series, parce qu'ils construisaient pas vraiment leurs équipes, ils faisaient pas vraiment de rivalité. Les pauvres Street Profits étaient confinés, comme nous d'ailleurs, mais eux, c'était dans les coulisses, ils n'aiment pas le droit de se battre. Ils passaient leur temps à parler avec Biggie en coulisses, donc je ne sais pas ce qui était passionnant à ça. Et donc là, bah, au moins, ils reprennent par des fondamentaux, donc du catch. Ça fait plaisir. Alors, ce n'est pas le plus... tu vois, par rapport à ce qui s'est passé à Raw avec les New Day, où on a eu vraiment un gros bon match de catch. Là, j'ai trouvé comme celui-ci était un peu en dessous, parce que j'ai trouvé assez court, en plus coupé par la page publicitaire. Mais en tout cas, on redémarre quelque chose. Enfin, on redémarre vraiment avec les divisions tech team qui a quand même connu une année dégueulasse. Donc, moi, je vais pas me plaindre de voir du catch dans cette division.
Oui, bon, là, c'était court. Hein. C'est vrai que ça fait peut-être un peu bizarre le grand écart entre un match énormément disputé qui est remporté par les Street Profits contre des légendes de la discipline là, aux séries, et puis là, bon, un match assez court qu'ils perdent un peu piteusement. Mais bon, il faut souvent ça pour. Pour lancer une feud, il faut souvent faire perdre les champions, c'est comme ça. Bon, oui, on va revoir du catch, on va revoir un petit peu. Et puis bon, à part Roode et Dolph Ziggler, de toute façon, hein, pas grand monde hein, chez Tag Team Last SmackDown.
Non, surtout qu'on voit plus Cesaro Nakamura là depuis quelques temps.
C'est vrai.
Et puis ouais, comme tu disais, hein, y a besoin d'un reboot général de toutes les rivalités sur SmackDown, vu que à part Roman Reigns qui fait son histoire dans son coin. T'as plus grand chose en fait qui tourne finalement, parce qu'on a fini l'histoire Rollins. Mysterio et famille recomposée là. Et puis si t'as Sacha et Carmella sinon qui nous tisent depuis quelques semaines, bah par ça t'as vraiment rien du tout qui est construit dans aucune division. Donc bon, voilà, il redémarre.
Ah mais tout ça arrive, hein. T'inquiète, on va en parler de tout ça. Justement, parlant de reboot, alors on passe un peu au titre intercontinental où il n'y avait pas grand chose ces dernières semaines à part une victoire de Sami Zayn par décompte à l'extérieur sur Apollo Crews. Donc ce soir, il affronte Sami Zayn, Daniel Bryan qui est interviewé et qui nous dit que sa stratégie, voilà, c'est d'accepter la situation, de rester zen, de rester concentré. Sami Zayn, lui, il est en pleine désillusion, il se croit le meilleur, il est dans une théorie du complot farfelue. Donc voilà, Daniel Bryan, il veut y aller sereinement, lui. Alors Sami Zayn, lui, arrive sur le ring et il clash un petit peu Thanksgiving au passage, puisque c'est la fête du moment hein, aux États-Unis, nous, ça nous touche pas trop encore en France. On a le Black Friday qui est arrivé, mais Thanksgiving, je suis pas sûr que ça vienne un jour. En gros, voilà, c'est la soirée des gros débiles d'Américains qui mangent de la bouffe grasse, donc Sami Zayn, ça lui plaît pas trop. Il dit à Daniel Bryan, au passage, ben, que quand même Bryan a eu sa chance à WrestleMania et qu'il a perdu sa chance, mais forcément, il aura sûrement une opportunité grâce à l'autorité, puisque ben, Sami Zayn est victime de sabotage, de complot, tout le monde veut le voir échouer. Voilà, il est dans cette dans ce registre-là, Sami Zayn. Bon, le match commence, et quand même, on a deux beaux protagonistes sur le ring. Sami Zayn arrive à plusieurs reprises à garder Daniel Bryan dehors longtemps, en lui faisant des dropkicks avant qu'il remonte sur le ring. Bryan, lui, ensuite, va pouvoir envoyer Sami Zayn dehors, le dominer assez longtemps au milieu du ring, avec une série de dropkicks, de ces fameux yes kicks dans tous les sens. On se place sur cette zone très dangereuse qui est le rebord du ring à l'extérieur des cordes. Sami Zayn place un brainbuster donc sur l'arrêt du ring à Daniel Bryan. C'est une grosse prise et il enchaîne même avec un Blue Thunderbomb au milieu du ring, mais ça sera simplement deux. Sami Zayn perd un peu de temps à trash-talker Daniel Bryan, forcément. Du coup, il se fait prendre dans un yes lock. Il arrive quand même à toucher les cordes avec son pied et donc à se sauver, à sortir du ring. Daniel Bryan s'élance pour un suicide dive sur Sami Zayn. Il en passe un, il en place deux. Zayn décide de fuir. Il s'en va, il part du ring. Alors Daniel Bryan le suit. L'arbitre commence à compter, l'arbitre féminine de SmackDown. Et tout d'un coup, on revoit Sami Zayn qui arrive par l'autre côté. Il a fait le tour sûrement dans les vestiaires. Il arrive à toute vitesse et il gagne donc. Il bat Daniel Bryan par décompte à l'extérieur. Alors, il est tout content, Sami Zayn, il a réussi sa mission, il est bien content de son coup. Sauf que bon, c'est pas aussi simple que ça, puisqu'en fait, on découvre très rapidement qu'en fait, Daniel Bryan est en train d'être tabassé par Jey Uso en coulisses. Donc en fait, ça, si on avait eu la caméra plus tôt, ça aurait sûrement été disqualification. Mais bah, Jey Uso, voilà, il continue son entreprise vengeresse. Alors, je sais pas trop pourquoi, puisque Daniel Bryan n'était pas dans la team Survivor Series, mais bon, il y a déjà eu des affrontements entre Bryan et Jey Uso. Et Kevin Owens vient un peu aider à la rescousse de Daniel Bryan. Donc ça reste très tendu autour de Jey Uso. On va rester là sur cet affrontement. Titre intercontinental, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que Sami Zayn, est-ce que tu es convaincu autant que Corey Graves ou est-ce que tu es sceptique comme Michael Cole?
Je suis partagé au moins comme tu le dis. Ça fait, on revoit un peu de cette ceinture à l'écran et dans du catch. Alors pour eux, le fait qu'Uso s'attaque à Bryan l'a quand même battu la semaine dernière, si j'ai pas de bêtises.
C'est vrai.
Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il se venge. Et puis de toute façon, Uso là, il est parti pour fracasser tout ce qui bouge pour essayer de reconquérir le cœur de son cousin. Et puis voilà, le match était pas mal. J'ai été un peu surpris que vraiment t'as Sami Zayn qui fait un brainbuster sur le coin du ring. Je me suis dit, putain là, il peut d'ailleurs pour enchaîner pour une victoire et ça finit juste sur un décompte extérieur qui se finit à 9. Pour au final regagner par des contacts extérieurs quand même en jouant à touche-touche là, à la course. Donc je sais pas trop. Je vais pas être négatif. Je vais dire au moins on a deux bons catcheurs dans le ring. Ils ont été pas trop mal. J'espère un vrai match de Sami Zayn quand même un jour ou un match du mois où il peut pas se sortir avec des entourloupes et où même s'il gagne. Un carol-up ou n'importe quoi, mais qu'au moins qu'on s'en sorte par autre chose qu'un décompte extérieur, quoi. Mais bon, c'est la transition, on va dire.
Oui, c'est un peu ce qui lui pend au nez, oui, avec ce style de gimmick là, vouloir toujours gagner à l'extérieur, en décompte à l'extérieur. Mais ouais, moi j'ai bien aimé l'affrontement. Hein. Alors j'ai pas les timings, mais ça a duré un peu. On a quand même bien vu, on a vu du bon catch là entre les deux, donc plutôt satisfait. Après là, c'est vrai que avec Uso qui se mêle de tout, on sait plus trop qui va être en feud contre qui, mais bon, Bryan a l'air quand même d'être assez focus hein, sur ce titre intercontinental, donc ça nous augure peut-être une revanche, mais ouais, il y a eu quelques gros moves, et Sami Zayn, moi je le trouve quand même pas mal hein, dans ce personnage, alors bon, c'est assez classique, hein, de théorie du complot, qui se sent pas respecté, qui veut s'enfuir en plein match, qui veut repartir avec sa ceinture, mais il est à l'aise quand même, je trouve. Il est à l'aise, alors d'ailleurs un peu plus tard dans la soirée, on va y passer de suite, hein. Quasiment avant le main event, il va croiser Big E et Apollo Crews qui sont en train de faire les cons backstage, hein, ils n'ont plus que ça à foutre. Sami Zayn au passage fait un peu le coq, se fout de leur gueule, se fout d'Apollo Crews qui l'a battu. Apollo préfère partir, par contre Big E lui dit « Ton règne là, t'as l'impression d'avoir construit une grande maison, une grande house, mais en fait c'est un château de cartes, c'est un house of cards, ça peut s'écrouler en un souffle ». Sami Zayn va jusqu'à chercher le règne intercontinental de Big E en lui disant que plus personne s'en souvient et que c'était nul. Et Sami Zayn, ce qu'il voudrait, c'est qu'on reconnaisse la victoire par décompte à l'extérieur et dit au lieu de gagner en 3 secondes par un pin, je gagne en 10 secondes, c'est quand même mieux. Et alors là, Biggie, il le prend un peu à son propre piège, il lui serre la main, il lui attrape la main, il lui broie pendant 10 longues secondes en comptant 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et du coup, il s'en va en lui disant « Eh voilà, c'est vrai que ça peut faire long, 10 secondes. » Donc, peut-être que c'est Biggie qui va s'intéresser à ce titre intercontinental. Qu'est-ce que t'en dirais, toi? Tu préférerais ça ou qu'on continue un peu avec Daniel Bryan?
Moi, je pense sincèrement que ça sera Biggie. Ouais. Et que Bryan, du coup, vu que son attaque par les Ouzo, alors je ne sais pas s'il va être tout de suite dans l'affaire ou s'il va être un peu out quelques semaines, mais que du coup, il aura peut-être d'autres histoires pour lui, Bryan. Mais oui, je vois bien Biggie qui a été mis complètement de côté là, pendant des semaines. J'ai eu très peur d'ailleurs quand je l'ai vu en coulisses, je me suis dit, c'est pas vrai qu'il va encore nous faire un segment coulisses où on comprend rien. Mais non, il interagit enfin avec Sami Zayn. Il y a une petite référence aussi au five count de Biggie parce que c'était sa gimmick à NXT, de mémoire, qui demandait un compte de 5 au lieu de demander un compte de 3. Et donc là, il y a une petite référence à ça en disant, Sami Zayn se vante d'un compte de 10 et puis derrière, Biggie lui montre que c'est 10 secondes, quoi. C'est bien, bien long. Et j'espère vraiment que ça débouchera sur une rivalité entre les deux.
Ouais, je sais pas ce que j'aurais. Comment j'aurais supporté, moi, 10 secondes à serrer la main de Biggie, ça doit faire mal quand même.
Mais il était rouge vif à la fin, Sami Zayn.
Ouais, il était pas content. D'ailleurs, il devait faire une interview, il a préféré pas le faire, hein, il s'est barré. Alors, je te propose de passer doucement mais gentiment dans un court segment féminin. Allons-y, on va regrouper tous les segments féminins. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu deux. Hein. Nous avons eu un énorme match entre Natalia et Bianca Belair avec Bayley au commentaire. Bayley qui prend un peu beaucoup de place hein, parce qu'on l'écoute plus qu'on regarde ce qui se passe sur le ring. Enfin, bref, à un moment donné, le match est assez court. Bianca Belair envoie Natalia dehors. Bayley, évidemment, elle se sent obligée de se lever, de trash-talker un peu. Dans tout ça, elle se prend un pain dans la gueule au passage, évidemment. Elle est furax, elle veut monter sur le ring pour aller intervenir, sauf que hop, elle percute Natalia qui est envoyée dans les cordes. Et Bianca Belair place la prise de finition, ironiquement, qui a fait perdre son mari quelques instants avant, le fameux roll-up finisher, et 1, 2, 3, victoire de Bianca Belair. Et Bayley, elle est très énervée, alors elle reproche beaucoup à Belair d'avoir été la perdante de la team SmackDown. Alors, Bayley avait été éliminée en premier, mais Belair, oui, techniquement, a pris la dernière élimination, mais... Donc, on sent un début de feud entre ces deux jeunes femmes. Ça construit des feuds. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est pas trop tôt pour Belair de partir?
Je pense que ça peut être bien, justement. Ouais. Et justement, je me faisais la réflexion en voyant Belair avancer le ring en disant, ce serait sympa qu'il y ait une rivalité avec Belair, vu que elle, c'est la fille qui finalement a porté son équipe, alors que Belair est censée être la capitaine et qui se fait éliminer en première. Il pouvait justement jouer là-dessus, puis ça n'a pas raté. Bayley qui débarque derrière, qui fait référence pour tous les commentaires. Je trouve que c'est une bonne ficelle de dire Bayley, c'était censé être la capitaine et puis elle n'a pas tenu son rôle. Et Belair, c'est la fille qui a repris un peu le flambeau, et puis du coup, jalousie, puis foutage sur la gueule. Et Bianca Belair, qui est une fille qui. J'attends toujours de. Enfin, j'ai jamais été fan d'elle parce que j'ai jamais eu le grand moment, le grand match, la grande victoire, tout ça. Il manque ça, en fait, pour. Je trouve, mais par contre, elle a comme un physique impressionnant. Elle sait faire des moves que tu vois aucune autre fille faire. Et donc, je me dis, quand tu la fous, si tu la fous dans les pattes de Bayley, éventuellement de Natalia, parce que Natalia ne perd que par roll-up, donc je me dis, c'est peut-être pas fini non plus pour elle. Elle va quand même avoir les filles les plus expérimentées dans le ring, et c'est peut-être l'occasion pour elle de faire un petit travail, une petite session sympathique de quelques semaines où elle pourra montrer ses atouts en valeur, Bianca Belair. Bon, par contre, un peu déçu par le finish en roll-up. Sauf si c'est pour déboucher sur des revanches derrière, mais sinon je trouve ça dommage de pas laisser un finish décisif pour Bianca Belair, quoi.
L'aurait mérité. Oui, c'est vrai qu'elle aurait pu très bien placer un finisher quand même, mais comme tu dis, je pense qu'il y a un truc qui se dessine avec les deux vétérans face à elle, et ça fait une bonne rivalité, moi je trouve aussi. De toute façon, Bayley, difficile hein, de trouver quelque chose à faire à quelqu'un qui a été presque un an et demi championne et tout ça, c'est pas. Enchaîner derrière, et là, ça va être un peu un rôle de vétéran face à une nouvelle. C'est assez cohérent, finalement, après avoir été au sommet pendant si longtemps, de passer un petit peu, de jouer un petit peu ce rôle-là de passeur de témoin. Très rapidement, Billy Kay est allé donner son CV à Michael Cole et à Corey Graves, et Carmella est dans un beau fauteuil, et elle nous explique à quel point quand les fans ont commencé à être fans d'elle, elle s'est mise à agir juste pour faire plaisir aux fans et elle a perdu un peu son identité au passage. Mais maintenant, c'est elle qui commande. Elle claque des doigts pour demander un verre de champagne, sauf que le verre de champagne lui est amené par une main qu'on voit apparaître et qui tient de magnifiques bagues avec marqué boss avec des diamants brillants, donc c'est Sasha Banks qui est là, et qui lui fout le champagne et des coups de poing dans la gueule, donc les deux femmes se bastonnent. Voilà, première fois que Sasha Banks répond enfin, puisque ça faisait, je sais pas, 3-4 semaines qu'elle prenait des coups de pied par derrière sans jamais se rebeller. Là, est-ce que tu es enthousiaste aussi par cette feud ou un petit peu moins?
Enthousiaste, non, ça serait fort. je suis plutôt je m'en foutaste, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais bon, là on voit le souci qui va être avec Carmella, c'est qu'en fait elle va jamais catcher quoi. Ça fait comme 4 semaines qu'elle est revenue, 4 semaines qu'elle fait du micro et des coups en traître. Son nouveau personnage n'est pas un personnage qui va catcher quoi, c'est un personnage qui va parler et puis elle fera certainement des matchs contre Sasha, mais elle a certainement pas travaillé son in-ring pendant toute son absence là, donc on va dire que Sasha sera capable de faire un match, un bon match avec un balai, et puis donc Carmella, c'est un joli balai.
C'est une belle façon de le dire. J'espère qu'elle a un petit peu augmenté son in-ring peut-être, mais c'est sûr que c'est bien le problème hein, souvent avec ces... Alors ça arrive souvent chez les filles d'ailleurs, bon c'est arrivé aussi chez les mecs, mais voilà, de construire un personnage très, très sûr, très, très persuadé d'être au top, d'être le ou la meilleure, et puis... de jouer beaucoup sur l'apparence physique, le costume, le bling bling, mais où derrière tu te dis bon, in-ring ça va pas coller quoi, ça va pas être très cohérent avec la gimmick. Alors soit ça devient de l'humour parce que c'est drôle, soit ça devient un peu bon, je sais pas trop si ça va pas être un peu un flop ce reboot de Carmelina là.
Bah, c'est pour l'occuper le temps que Sasha retrouve une vraie challengeuse à l'horizon Rumble WrestleMania, je pense.
Oui, c'est sûr. Mais bon, il n'y aura pas grand monde hein, quand même derrière. Enfin, il y aura Belair sûrement dans quelques semaines, dans quelques mois.
Ou Bayley qui va revenir aussi, là. Une des deux, je pense.
Oui, c'est possible. Allez, nous quittons le glorieux et doux monde féminin. On va repasser un petit peu chez les Brutas, chez les mecs, chez les costauds. Alors, en interview, juste après l'interview qu'on avait eu de Daniel Bryan, par contre, nous avions eu la famille Rey Mysterio. Et Murphy, voilà, qui avec Aliyah, ils se tiennent par la main, c'est mignon comme tout. Rey Mysterio, voilà, il est quand même américain, hein, il n'est pas si mexicain que ça, donc c'est Thanksgiving, lui il est thankful, donc il est reconnaissant d'avoir pu voir son fils débuter sur le ring, de voir sa fille qui devient une belle jeune femme, et puis de voir que Murphy est passé du côté clair de la force. Et ils sont interrompus par l'empêcheur d'être heureux en rond, c'est-à-dire King Corbin, qui vient faire son gros réac en disant ça le fait chier de voir des gens heureux, que c'est tous de merde et que tout le monde, en gros, Murphy est en train d'utiliser le nom de Rey Mysterio tant qu'il vaut quelque chose, et voilà, il est pas très gentil. Du coup, un peu plus tard, on aura ce match entre Murphy contre Corbin, un match qui sera une sorte de lumberjack match à handicap, puisque pour une fois, Baron Corbin se retrouve encerclé par la famille Mysterio. Alors, il n'y a pas la maman hein, de mémoire, mais il y a Aliyah, il y a Rey, et puis il y a Dominique. Du coup, Corbin, il est un peu embêté, il ne sait pas trop quoi faire. Pourtant, c'est même après surprenant, il domine de la tête et des épaules. Hein, Corbin, le pauvre Murphy, il prend cher dans tous les sens. Mais par contre, dès que Corbin veut tenter un truc, il y a un des membres de la famille Mysterio qui monte sur le ring. Donc, il est obligé un peu de les repousser. Notamment, à un moment donné, il place un deep six, mais Rey Mysterio se met à parler avec l'arbitre. Donc, du coup, il ne peut pas faire le décompte. Ça prend cher de la part de Murphy. Dominique intervient aussi à un moment donné, et là, à ce moment-là, Corbin perd un petit peu le contrôle du match. Il encaisse le genou de Murphy dans la tête. Il est couché au sol. Murphy tente un pin. On est quand même très près des cordes, donc le King met son pied sur les cordes. Mais Dominique enlève le pied des cordes et permet à Murphy de l'emporter. Donc là, voilà comme quoi ça fait du bien de rentrer dans un gang, dans un clan. Là, on se sent aidé, Murphy obtient sa victoire. Corbin, il est furieux, il prend le micro, il dit c'est pas normal, c'est pas possible, j'étais 1 contre 4 là. Donc je veux une revanche la semaine prochaine, mais cette fois-ci, je serai prêt. C'est vrai que de base, il était censé affronter Otis, donc il ne s'attendait peut-être pas à ça. Voilà, la famille Mysterio, après une grande feud contre Seth Rollins, s'annonce contre King Corbin. On continue dans le prestige là. Est-ce que tu les trouves bien là, ces Mysterio qui jouent un peu les gangstas au bord du ring?
Ouais, c'était ça m'a super perturbé en fait ce match-là. Parce que les Mysterio étaient limite en heal, à toujours intervenir. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai arrivé. Murphy. Murphy, il est booké ultra faible sur ce match-là.
Ah, ben là, il a pris.
Il a besoin de deux mecs pour l'aider, trois mecs, parce qu'Alia aussi est intervenu au moment pour, tu sais, pour interrompre la course extérieure du King, du Corbin.
Ouais.
Donc trois personnes pour l'aider. Il gagne en plus avec un coup de main pour éviter le pied sur la corde. Et en fait, c'est marrant parce qu'en regardant ça, je me suis dit, Murphy, il a récupéré le rôle de Dominique Mysterio. C'est le petit jeune qui débute et qui est pas assez fort pour se mettre face aux grosses brutes et du coup on l'aide pour qu'il gagne. Alors que Murphy, ces dernières semaines, il a eu des victoires convaincantes, mais là il a été ultra aidé et par contre Dominique d'ailleurs on ne va plus jamais catcher. Donc je me demande si c'est pas lui qui est en train de récupérer l'histoire pour lui. À voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines parce que Corbin qui dit je serai préparé la semaine prochaine, j'ai un petit espoir fou qui va venir avec des renforts. Et que du coup, on va peut-être avoir Ray plus Dominique plus Murphy versus Corbin et tu vois, deux gars, par exemple.
Ouais.
Imaginons qu'il trouve un Japonais et un Suisse et qu'il les prenne avec lui. Ça pourrait être pas mal.
S'il y a un Japonais, un Suisse et un Américain qui rentrent dans un bar, après, je sais pas comment ça finit, mais ça peut péter des tables.
Voilà, ça peut être pas mal. Donc, mais bon, ouais. je laisse voir, mais c'est très surprenant comme début de rivalité.
J'ai pensé à ça aussi. Au début, quand il a pris les micros, j'ai cru qu'il allait demander un truc à Stipu, là, du genre Steel Cage Match, mais ça m'étonnait un peu que ça démarre aussi violent si tôt. Non, alors oui, comme tu dis, le fait de dire « je serai prêt », à mon avis, ça peut présager quelque chose. Assez étonné, oui, de plus du tout voir Dominique sur le ring. Et puis Murphy, ouais, il a fait un move, là. Il a donné un coup de genou, je crois. Bon, c'est comme ça. Mais alors, c'est vrai qu'après avoir un peu critiqué Rollins et tous ces petits coups en traître, là, on se met à faire quasiment la même chose. C'est un peu étonnant. Drôle de booking. Drôle de booking dans la famille Mysterio. On verra bien, mais on arrive au main event, là. Hein, notre main event de ce soir. T'es prêt, papy?
Ah bah là, je suis impatient.
Alors, comment il est arrivé ce main event? C'était un peu plus tôt dans la soirée quand Jey Uso a tabassé Daniel Bryan. Owens, il est venu aider Bryan et il est même allé retrouver tout le clan samoan avec Roman Reigns et Paul Heyman et il leur a dit les gars, vous êtes dans vos problèmes de famille, faut pas venir foutre ça le bordel dans le roster. Hein. Roman, c'est pas ton aire de jeu ici, it's not your playground. Donc tu dis que t'es fan de la famille mais tu traites ton cousin comme de la merde, c'est pas cool. Owens s'en va, Reigns il regarde Jay, il lui dit tu vois là par exemple Kevin Owens il me regarde pas avec de la peur, et ben il va falloir que tu règles ça, fix that. Et un peu plus tard on voit Paul Heyman qui discute avec Adam Pearce pour nous booker donc le main event, Jay Uso contre Kevin Owens, ce qui encore une fois prouve que les main events de SmackDown sont décidés à peu près au bout de 40 minutes de show, hein, puisque Paul Heyman on a dû le voir en toute fin de show. Je sais pas ce qu'ils avaient prévu sinon, comme il y aurait peut-être pas eu de main event sûrement. Bref, passons au-delà de ses préoccupations. Jey Uso contre Kevin Owens. Alors Owens, assez tôt dans le match, à l'extérieur du ring, il est projeté l'épaule dans les escaliers. Jey Uso part pour un suicide dive, mais Owens arrive à le choper au passage et à l'envoyer la tête dans le poteau. Puis deux super kicks. Il fait un senton bomb depuis l'arrêt du ring. Donc grosse domination d'Owens. Mais ensuite, entre les cordes, Jey Uso trouve un point faible. C'est le bras gauche de Kevin Owens, donc il lui fait armbreaker et le tord un petit peu dans tous les sens. Et ça marche, puisque Owens reprend le dessus et essaye de placer une pop-up powerbomb, mais son bras gauche lâche, il n'y arrive pas. Du coup, il encaisse un kick dans la mâchoire. Jey Uso part pour un splash, mais c'est raté. Kevin Owens lui tente un stunner, mais c'est raté. Jey envoie Owens dans le turnbuckle à deux reprises. Donc, d'un côté, poum dans le poteau, de l'autre côté, poum dans le poteau. Et Jey Uso sort du ring et va chercher une chaise. Donc, il abandonne le match, hein, il utilise la chaise, il tape, donc disqualification, il se fout de la victoire. Par contre, il tape à nouveau, il retape Kevin Owens. Il nettoie un petit peu la table des commentateurs, sûrement pour finir un petit peu avec un Samoan drop ou que sais-je, mais il encaisse un stunner et Kevin Owens, le second souffle de folie, il se réveille, il prend une chaise, il tape Jey Uso dans tous les sens, il le détruit, alors là, il se rate pas. Et en faisant ça, il parle à la caméra, donc il parle en fait directement à Roman Reigns, qui regarde tout ça depuis sa télé, on le voit, Roman Reigns. Et Kevin Owens, il lui va fort, il lui dit « Vas-y, t'es où là? T'es où pour aider ta famille? Tu crois que j'ai peur de toi? Moi, j'ai peur de personne. I fear no one. » Il est vraiment très intense, Kevin Owens. Il place un nouveau stunner à Jey Uso. Et alors, il prend sa chaise et il se met au bout de la table des commentaires. Il se met à la tête de la table, à la head of the table, Kevin Owens. Et il réclame Roman Reigns. Voilà, il lui dit « Où es-tu ? Je t'attends, en gros. » Et il y a une grosse intensité de regard par écran interposé qui se fait. Roman Reigns, il sent qu'il y a du grabuge et il sent, je pense, qu'il va devoir intervenir. Donc, on finit notre épisode de SmackDown là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event plein de transpiration, de sueur et de violence ?
Ouais, alors le match en lui-même, et j'ai pas grand-chose à dire. C'est un match classique entre les deux. J'ai envie de dire, j'ai pas. En tout cas, moi, j'ai pas de moments marquants. Tu vois, tu me l'auras raconté. Quand tu me l'as raconté, je m'en souvenais. Mais si tu m'as pas raconté le match, je pense que j'aurais pas vraiment eu d'image qui serait restée. Par contre, on en parlait tout à l'heure avec la Six Intercontinental, le retour de Big E. On en parlait aussi des tag teams qui se réveillaient. Retour de Kevin Owens, ça faisait aussi des semaines là qui foutait rien, même quand il était dans l'équipe de SmackDown, on le voyait même pas. De toute façon, il venait pas. Il a fait une prestation assez transparente sur leur série parce qu'il a juste enchaîné les stunners puis pour se faire éliminer dans la foulée. Et puis là, il se repositionne en Kevin Owens d'il y a quelques semaines du mec qui était super un face en pleine montée. Et donc, il va se confronter, je pense, à Roman Reigns. Pour moi, ce sera la rivalité qu'on aura à TLC. Ça me semble assez évident. En tout cas, l'imaginer comme ça. Et puis, c'est pas plus mal. C'est un vrai des top face de SmackDown. De toute façon, Kevin Owens, je ne vois pas vraiment d'autres. À part Bryan et Big E. Les autres, c'est vraiment nettement en dessous. Et encore, Big E, il est vraiment en dessous de Bryan. Donc, c'est vraiment Bryan et Owens qui sont les deux. Les autres, c'est loin. Et donc, voilà, quoi. Donc, Je suis plutôt impatient de voir la rivalité. C'est un reboot encore une fois. Ils ont démarré un nouveau truc. Ce SmackDown-là, ça a relancé toutes les rivalités. Et celle-là a potentiellement de quoi me plaire. Et puis, le pauvre Jay a encore pris cher. C'est la leçon, de toute façon.
Oui, c'est vrai, le pauvre. Mais bien fait pour lui. Hein. C'est lui qui a commencé les hostilités en cherchant la chaise et tout. Il aurait pu gagner ce match à la loyale. Donc, j'ai pas trop de compassion pour Jey Uso. Par contre, j'ai été impressionné par cette fin de show et Kevin Owens qui n'est jamais aussi bon que quand il a comme ça un enjeu. Hein. C'est même pas le fait d'avoir un micro, c'est juste le fait d'avoir une rivalité. Donc là, il est très 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 en forme. Il est reparti dans quelque chose d'intense, sachant que Owens versus Roman Reigns, ça avait été une longue feud à l'époque où Roman Reigns avait le titre universel d'ailleurs. À l'époque où il était champion heel, hein, c'était lui le heel à l'époque, qui était accompagné de Chris Jericho, on s'en souvient, et qui avait eu de sacrés gros matchs avec Roman Reigns. Alors là, dans cette configuration inversée, c'est-à-dire avec un Roman Reigns heel et puis le heel tel qu'il est actuellement, je suis assez client de la feud, ça m'intéresse, ça me fait plaisir de revoir Owens dans le main event. C'est vrai qu'il y a Daniel Bryan qui a l'air d'être un peu en seconde main derrière, qui sera peut-être celui pour l'affiche du Rumble, je ne sais pas. Mais ça me plaît bien, cette fun. Mine de rien, Jey Uso, il prend cher, mais enfin, ça doit faire quand même 3 ou 4 main events d'affilée là, qu'il fait à SmackDown, non ?
C'est ça, c'est le Jey Main Event, je ne sais plus comment il l'appelle, mais c'est effectivement le préposé au main event depuis quelques temps. Ouais. En plus, Roman Reigns se bat vraiment que quand il a envie. Bon, après, ça va très bien. Son personnage, hein. Ça pour le coup, il n'y a pas vraiment de choses à reprocher là-dessus. Mais vraiment, comme toi, je pense que Kevin Owens, si tu lui donnes l'opportunité d'avoir une vraie rivalité, il va la tenir la rivalité. Quoi. Il va faire les segments micro qu'il faut. C'est marrant parce qu'en fait, tu vois, c'est le mec, tu sens que par contre, dès que tu lui files une rivalité, il te pousse le curseur à fond, puis voilà, il est à fond les ballons, fond dans les, puis c'est parti, bon kiki quoi, vivement que ça se fight.
Je le sens, je pense que sur ces catchers qui a fait certains des plus beaux matchs et des meilleures heures de la WWE, Kevin Owens, donc ça fait plaisir de le revoir. Il a fait le meilleur match de WrestleMania, je dirais, contre Seth Rollins, donc il y a quand même quelque chose à faire. Après, comme tu dis, Roman, je sais pas si c'est une question d'état de santé ou de gimmick, mais il va être surtout parti, je pense, pour nous faire des gros matchs de pay-per-view, et puis peut-être à chaque fois un bon mois de pause entre les deux. Mais ça passe.
Ouais, et après, Et puis il y a un truc que je me demandais, tiens, une petite question pour toi. Est-ce que quand tu vois Jey Uso se faire latter semaine après semaine, tu te dis pas que Roman Reigns va finir par recruter quelqu'un d'autre en plus avec lui, quoi. Pour avoir un vrai homme de main qui soit un peu plus performant que Jey Uso. Parce que là, ça, là, c'est l'homme de main dans les comics ou dans n'importe quoi, le mec qui se fait latter tout le temps, quoi, par le super-héros, Jey Uso. Mais il est vraiment pas impressionnant et je me demande si demain, Roman va pas chercher à prendre une espèce de grosse bestiole là et qui foutrait derrière lui pour le rajouter encore plus un clan dominant, quoi. Tu vois, un Baba Koto ou je sais pas quoi, là, une espèce de grosse bête qui viendrait renforcer le clan.
Ah ouais, et puis il y a des origines samoanes là aussi, non, ou...
Non, je crois qu'il est polonais, lui, non?
Hein?
Baga Koto, là, je crois qu'il était polonais, de voir.
Ah, polonais, donc rien à voir, non, c'est assez loin quand même, les îles Samoa de la Pologne. Mais oui, c'est possible, alors c'est marrant, hein, parce que Jey Uso, ils nous l'ont quand même mis très fort, hein. Ils battaient AJ Styles, ils battaient Daniel Bryan, il y a eu une époque où on avait l'impression que... qu'il faisait jeu égal avec Reigns, ça c'était pour monter la feud entre les deux. Mais là, depuis qu'il a perdu contre son cousin, ouais, il a vraiment retrouvé le statut d'homme de main. Bon, il a reperdu contre Drew, contre Bryan. Là, c'est un peu particulier parce qu'il perd pas vraiment le match. Mais par contre, ouais, dans la foulée, il prend cher. Je sais pas si Jimmy est complètement out ou s'ils veulent juste garder la gimmick de un peu scission entre les deux frères, justement, parce que bon, Jimmy a l'air plutôt d'être celui qui va probablement tirer Jey hors de tout ça, je pense. Peut-être qu'on va vers un autre homme de main pour Roman Reigns, je saurais pas dire, mais je trouve qu'en termes de qualité de main event et de qualité de match, il tient bien son rang quand même, hein. Il y a pas à rougir de Jey Uso.
Oui, il y a pas de soucis au niveau du ring, mais c'est vraiment l'aspect qu'il a, que Roman, il a un clan, mais il a un clan avec Coleman qui parle plus et Jey Uso qui se fait latter la gueule. Donc c'est pas un clan dominant. Il y a vraiment que lui dans son clan.
Ouais. Après c'est l'histoire de la famille, donc c'est la gimmick. On sait pas trop, hein, si pour le moment on va dire que la mission marche. Roman Reigns, il est pas tant sollicité que ça. Il a un peu son garde-fou qui est Jey Uso. Sa ceinture est pas trop menacé, peut-être qu'il considère que Jey Uso fait le taf, mais ça durera peut-être pas, effectivement.
On verra.
Eh bien, écoute, papy, avant de voir, hein, puisque ça sera pour les prochaines semaines, nous avons fini pour ce SmackDown. J'écoute donc ton mot de la fin avec attention, surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas écouté en direct le mot de la fin de papy, alors ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Oui, alors je vais essayer d'être surprenant. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme top flop? C'est marrant parce qu'en fait, c'est un show où j'ai pas vraiment de flop et j'ai pas vraiment de top. C'est-à-dire qu'il s'est passé d'un espèce d'entre-deux pendant tout le show. Je vais essayer quand même d'en dégager un de chaque. Donc en top, donné Kevin Owens qui semble se diriger vers une place de challenger numéro 1, parce que comme je le disais, c'est le genre de mec, et si tu le mets dans un truc, et directement il se remet à fond dedans, il fait des bons matchs, il fait des bons segments micro, puis voilà, j'ai toute confiance en lui. En flop, je vais le donner au fait qu'on n'avait aucun finish clean, je crois, ce soir, hein. On a eu un roll-up pour commencer, un roll-up pour continuer, le pied dans les cordes pour milieu et puis un coup de chaise à la fin. Je pense pas oublier de match, mais
en fait. Il y a eu le 10 secondes à l'extérieur.
Et le 10 secondes extérieur, voilà. Donc on a eu la totale, des finishes non clean. Une fois de temps, j'ai vraiment. Moi, je suis vraiment pas le mec qui dit ah non, un match, elle peut se finir que par soumission ou tomber, tout ça. Mais par contre, faites-en. Enfin, je veux dire, les mecs, ils ont des finishers, utilisez-les quand même une fois ou deux par show, quoi. Là, ouais. Faire que des finitions clean, c'était un petit peu abusé, quoi. On sent qu'ils lancent des rivalités, qu'ils veulent pas griller toutes les cartouches tout de suite. Mais bon, du coup, ça faisait un peu cheap, quoi. Et du coup, ma note, je vais donner un 2,5 parce que, c'était pas mauvais, c'était pas bon non plus. Il y a des bonnes idées, mais c'est que le début, donc, 2,5.
Ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse. Moi, j'ai un peu cette impression d'avoir assisté à un show bien, moyen, pas trop mal. Mais je reste de ton côté pour le top. Je le mets au main event de Kevin Owens. Et à cette intensité du segment final, pour moi, c'est vraiment qui a rendu le show bah, justement intense, hein, parce que pour le reste, on sent que ça débute, donc on n'est pas encore dans une haine pure, dans une violence totale, dans des grandes attaques, alors que là, bon, on y est quand même, hein, un coup de chaise, stunner. Les Saturn Bomb de Kevin Owens, je les aime beaucoup aussi, j'ai toujours l'impression que vraiment c'est une montagne qui te tombe dessus, donc top pour Kevin Owens. Ouais, moi le flop, c'est le, ça sera le segment de la famille Mysterio. Bah, alors j'étais moins là ces dernières semaines, mais de plus en plus quand même, hein, dans cette feud avec Rollins et Murphy, il passait de gentille petite famille sympa à un peu clan de gitan là, qui a l'air prêt à tout. Et là, ils étaient un peu du côté magouille clan de gitan. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi ils sont tous aussi nombreux à chaque fois sur le ring. C'est ce qu'a pas arrêté de dire Corey Graves, pourquoi ils sont tous là. Bon, c'est, ça y est, on a compris. Maintenant, il y a une gimmick famille Mysterio, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Non, ça m'a pas, autant j'aime voir King Corbin perdre et être en situation de difficulté. Autant là, ça aurait pu être plus subtil. Comme tu dis, il aurait très bien pu prendre un finisher clean au milieu du ring, un tombé clean, mais avoir été un peu distrait avant, c'était pas très grave. Là, cette histoire de pied sur corde, en plus, j'ai pas trouvé ça bien exécuté parce qu'il a, il a tellement envoyé le pied loin, Dominique, que c'est pas possible que l'arbitre ait pas vu quelque chose. Enfin, c'était un peu bizarre. Et moi, je vais monter un petit peu la note en passant à 2,75 parce que il y a pas eu de trucs trop pourris, disons, dans le ring. Ça a eu quand même un peu de bonnes performances avec Bryan, Zayn, Uso et Kevin Owens, et puis un petit peu les Street Profits, même si ça a été court. Donc, plutôt un bon effort. J'encourage l'effort pour le début des feuds, mais voilà, on attend encore du lourd à ce niveau-là. Ben voilà, papy, écoute, ça m'a fait plaisir d'être avec toi pour ce premier SmackDown de mon nouveau micro. Coucou le micro. Les nouvelles ères s'ouvrent pour catch-up. J'espère que toi, ben, tu as été. Ça t'a plu d'être ici aussi avec moi pour cet épisode.
Ah, j'étais heureux d'être là pour ta première. C'est toujours important d'accompagner des jeunes pour leur première fois.
Ah, ben c'est très gentil à toi. Alors, je reprends la main, et là, c'est le passage un peu délicat de la promo, mais je vais y arriver sans problème. Voilà, chaque semaine, écoutez-nous, vous pouvez nous rejoindre sur Discord si cet épisode vous a plu. Vous avez les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch-up CDC, la chaîne YouTube Catch-up CDC. Voilà, on est à plus de 1000 abonnés, donc continuez à nous rejoindre, hein, n'hésitez pas. Pour les podcasts, alors ça a un peu changé de nom, mais d'après ce que je lis, il y a Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, hein, comme toujours, à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme interrogation ce soir? Est-ce que vous préférez voir Big E ou Daniel Bryan affronter Sami Zayn? Est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous trouvez que Dolph Ziggler ressemble à HBK vraiment beaucoup? Est-ce que vous préférez Natalia ou Bianca Belair? Est-ce que vous engageriez Billy Kay? Bref, plein de questions. On attend vos réactions. D'ici là, ben, papy, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour cet épisode. Et puis, ben,
merci pour l'accueil, hein, en tout cas.
Pas de problème, t'es toujours le bienvenu. On est tous bienvenus à Catch Up. Et puis, je vous dis à tous bonne semaine, bon week-end, bonnes vacances, bonne fin d'année. Plein de catch, du catch partout, tout le temps. C'est Noël, on va suivre ça ensemble. Et puis, ben, très bientôt sur Catch Up. Ciao à tous.
Salut à tous, bon confinement.
Confinement entre les cordes.
Ah oui, c'est un endroit où tu peux pas sortir, sauf Sami Zayn.